Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocat, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocat.com.
Jusqu'à 17h, vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé, votre source pour rester branché au 104.7 Outaouais.
OK, la chronique en droit du travail maintenant avec Maître Philippe Coderre. Oui, c'est son grand retour aujourd'hui. Salut Philippe!
Salut LP, bonne année!
Ben toi aussi, on a encore le droit, mais on est limite là, rendu au 13 janvier. Plusieurs sujets pour commencer l'année ensemble, Philippe. D'abord, les parents qui doivent s'absenter du travail cette semaine, dans certains cas, parce que les écoles secondaires sont encore fermées. Ils ont le droit de prendre certains congés, mais ils ne peuvent pas toucher à l'aide financière d'Ottawa pour prendre soin d'un enfant. On avait parlé avant les fêtes, mais c'était hypothétique. Là, on est dedans. Là. La loi prévoit combien de congés pour ces parents-là?
Bien, en fait, la loi, c'est les normes du travail. Ce qu'elle prévoit, c'est qu'on a droit à 10 jours de congés par année pour prendre soin d'un enfant ou d'un proche. Là. Et cette banque-là se renouvelle à chaque année. Donc là, elle vient d'être renouvelée. Malheureusement, c'est juste deux de ces journées-là qui sont payées par l'employeur, obligatoirement. Évidemment, l'employeur peut décider de les payer quand même, là, mais c'est ça la règle. Donc, c'est dommage. Les gens ont le droit de s'absenter pour ces motifs-là, mais il y a une différence entre avoir le droit de s'absenter et le droit d'être rémunéré pendant cette absence-là. Et là, je vous dirais que c'est vraiment là qu'il y a un problème. On ne s'est pas encore adapté, malgré que ça fait 9 mois que la pandémie dure, à ces situations-là. Moi, je trouve que les gouvernements auraient pu faire un petit projet de loi spécial, là, temporaire, pendant cette période-là, parce qu'effectivement, il y a des parents, surtout ceux qui sont au privé, là, qui, malheureusement, vont peut-être devoir prendre du temps à leurs frais s'ils sont pas capables de travailler de la maison pendant quelques temps.
Plusieurs employeurs se sont ajustés, mais pas la loi. Donc, malheureusement, il y en a qui glissent entre deux cracks et qui sont un peu pénalisés par la situation actuelle.
Exact. C'est vraiment ceux du secteur privé qui vont être vraiment pénalisés, selon moi, là, parce que souvent, les conventions collectives prévoient quand même certaines choses. On peut négocier des lettres d'entente avec l'employeur aussi pour pallier à des situations exceptionnelles. Mais quand on est salarié dans le secteur privé, on se rabat toujours sur la loi sur les normes du travail. Puis ici, elle me semble un peu incomplète là, par rapport à la situation qu'on vit.
L'employeur peut-il les forcer à prendre du temps de vacances?
Non, absolument, les vacances, on doit donner un avis de 4 semaines selon la loi sur les normes du travail. Fait que je peux pas dire aux parents, bon, ben là, vous allez brûler votre banque de vacances. Le but des vacances, c'est de se reposer. On s'entend qu'en ce moment, on se repose pas. Puis normalement, ben, l'employé peut quand même, avec l'accord de l'employeur, décider de la date de ses vacances. Donc, l'employé pourrait dire, non, je ne prends pas mes vacances. Je vais prendre un sans solde à la place.
S'il y en a qui peuvent vraiment pas travailler cette semaine parce que les enfants sont à la maison, est-ce qu'au moins leur emploi est protégé?
Oui, c'est protégé. Parce que comme je disais, on a droit à 10 jours là, en partant. Et même si on excède ce 10 jours-là, dans la mesure où c'est justifié, quelqu'un qui a plus que 2 ans de service continu là, au Québec dispose d'un recours envers la loi sur les normes du travail pour contester un congédiement injuste. Et là, probablement que ça ferait partie des critères là, pour déterminer que c'est un congédiement injuste. Là, qu'on congédie quelqu'un qui est pris à la maison avec des enfants, là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de juges administratifs qui aimeraient savoir ça.
Je pense pas, effectivement. Autre sujet qui a fait la manchette cette semaine, Philippe, 2 enseignantes, dont une de l'Outaouais, qui ont déposé une demande d'action collective contre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation du Québec. Elles veulent que le gouvernement dédommage les enseignants du réseau public. Elles estiment qu'elles sont victimes de violences au travail, de surexploitation, de discrimination économique, comme c'est le cas, disent-elles, là, pour plusieurs métiers à prédominance féminine. D'abord, ta première réaction là-dessus, Philippe?
Mais la première réaction, je ne suis pas un expert en action collective, là, mais normalement, on ne peut pas utiliser un autre remède que l'arbitrage à grief ou la commission des normes du travail si on n'est pas syndiqué en matière d'harcèlement psychologique. Alors, je me demande vraiment pourquoi ce serait au cours supérieur d'intervenir là-dedans. J'ai bien l'impression que ça se pourrait qu'elle se fasse dire, ben pour ça, vous devez aller déposer des griefs, là, puis aller en arbitrage de griefs, vous avez une convention collective. Du moins, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que dans le contexte d'une action collective, on élargit les compétences de la Cour supérieure, ou est-ce qu'ici, la Cour supérieure pourrait dire, ben, écoutez, ça, il y a un facteur de rattachement là, aux cours civiles, là, c'est pas nécessairement lié à la convention collective, c'est lié à des fautes civiles à part, peut-être, là, mais ma première réaction, moi, quand j'ai vu ça, c'est est-ce qu'elles ont le droit de faire ça? J'ai bien hâte de voir la réponse.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est le montant qui est demandé. Chaque enseignant qui répond aux critères pourrait toucher entre 1 000 et 2 000 en compensation si jamais le tribunal là, va de l'avant avec la cause. Ça me semble pas énorme comme montant. C'est quasiment symbolique, Philippe.
Oui, c'est très symbolique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'harcèlement psychologique, l'objectif premier de la loi, là, c'est que l'harcèlement cesse. L'employeur doit prendre les mesures pour qu'elle cesse. En matière de dédommagement, là, c'est vraiment pas la loterie au Québec, les dossiers d'harcèlement psychologique. Donc, je suis pas surpris que ce soit des plus petits montants, surtout que ça va viser, je sais pas c'est quoi les critères là, des enseignants qui sont visés par la demande, là, mais je suis pas surpris que ce soit plus bas que plus élevé, parce que justement, en matière d'harcèlement psychologique, les gros montants, c'est très rare qu'on voit ça. Il faudrait vraiment un cas là, absolument extrême. Alors, je ne suis pas tant surpris, moi, ouais, du montant qui est demandé.
C'est peut-être plus un moyen de pression, hein? C'est peut-être plus un moyen de pression contre le gouvernement, au fond, cette requête-là, là.
Je pense que oui, effectivement. On va voir ce que la Cour supérieure décide. Là. D'abord, est-ce qu'elle va accueillir, leur donner le droit de le faire? Là. Comme je disais d'emblée, il semble y avoir un problème de compétence dès le début, là, de la compétence de la Cour, là, je parle, pour entendre le dossier. On va voir ça. Puis par la suite, bien, effectivement, ça me semble être un stunt là, un peu là, pour dire au gouvernement « Hey, réveillez-vous, on n'est plus capable, nous autres, dans les écoles. C'est une situation qui n'est pas facile à vivre. » Puis on veut adresser la situation.
Ouais. Mettons là, qu'on oublie cette cause-là comme telle, Philippe, de façon plus large. Quand on est rendu à faire une demande d'action collective, là, ça veut dire que le fossé s'est vraiment creusé entre l'employeur et ses travailleurs parce que évidemment il y a d'autres options avant d'en arriver là.
Ben effectivement, normalement, là, on va passer par notre syndicat, qui est le monopole de la représentation quand on a une convention collective. Puis, je sais pas si tu te souviens, avant les fêtes, on a fait une chronique sur Hockey Québec,
oui,
où on avait demandé une médiation. Là. Ben ça, c'est un service qui peut être utilisé dans un cas majeur comme ça. Donc, on peut demander au ministère du Travail de dépêcher un conciliateur. Évidemment, ça prend l'accord de l'employeur, mais ça peut être une façon de faire. Puis, l'autre façon qu'on voit normalement, c'est qu'on dépose un grief en harcèlement, ou une plainte aux normes si on n'est pas syndiqué, puis on laisse là, le juge administratif ou l'arbitre de grief qui va entendre le dossier ben, trancher ça. Puis souvent, avant de se rendre à grief, à procès, on va avoir une négociation de toute façon, puis c'est souvent là qu'on peut régler les problèmes. Alors, je dirais que normalement, c'est ça là, la démarche à suivre.
Bon, dernier dossier en terminant. On apprenait ce matin que l'ancien chef de cabinet de Sue Montgomery, c'est la mairesse d'un arrondissement de Montréal, Côte-des-Neiges, obtient 33 000 $ dans une entente hors cours. C'est une nouvelle qui t'a choqué, Philippe. Pourquoi?
Ben, c'est parce que les ententes hors cours, puis le journaliste le dit, là, elles sont confidentielles. Donc, là, je m'adresse à tous les auditeurs. Là. Si vous rendez une manière en médiation devant les normes, parce que c'était ça la situation ici, il y a eu une plainte aux normes qui était déposée, la première chose que le médiateur vous dit, c'est que tout ce qui est dit pendant la médiation ne peut pas être rendu public. Et dans les documents de transaction, on met des clauses à l'effet que c'est confidentiel. Et ici, le journaliste le dit que c'est une entente confidentielle dont il a obtenu copie. Alors moi, je trouve ça très, très, très problématique. Je ne sais pas c'est qui a fait, comme on dit en bon français,
la
le
fuite.
Leak,
ouais, c'est
la
ça.
Fuite. Mais moi, si j'étais du côté de Mme Montgomery, j'envisagerais mes recours. Là, parce que le but de régler hors cours pour un employeur, souvent, c'est de passer à autre chose, d'éviter des frais d'avocat, puis que ça soit pas public et médiatisé. C'est ça l'objectif. En rendant ça public, on voit que c'est 33 000, donc on peut présumer que c'est à peu près 6 mois de salaire peut-être. Je sais pas combien il faisait par année, mais ça nous donne un bon aperçu que l'employeur trouvait qu'il n'y avait pas un bon dossier pour régler aussi chèrement un dossier là, suite à une plainte aux normes. Donc, ça peut laisser la population faire toutes sortes d'inférences et ça fait mal paraître l'employeur. Donc, je pense pas que c'est l'employeur qui a fait cette fuite-là. Je sais pas c'est qui, mais moi, je vois un problème avec
ouais,
ça.
Ouais, mais là, tu dis, moi, je serais peut-être tenter d'intenter une poursuite contre qui? Contre le journaliste ou contre l'employé congédié qu'on suppose que c'est lui qui est à l'origine de la fuite?
Ben là, c'est sûr qu'il y a un problème de preuve.
C'est
ici,
ça.
De faire nos preuves. Mais quand on est l'employeur, supposons, ça peut être une fuite aussi qui émane du côté de l'employeur. Tu sais qu'il y a un employé administratif qui a mis la main là-dessus et qui a décidé de donner ça à un journaliste. Fait qu'évidemment, il faut faire notre propre enquête à l'interne. Mais normalement, c'est une condition essentielle d'une transaction. Donc souvent, on peut demander le remboursement des sommes qu'on a payées quand quelqu'un déroge à cette transaction-là, parce que c'est une condition essentielle, la confidentialité. Évidemment, ça va prendre une enquête. On peut pas poursuivre n'importe qui pour n'importe quoi. Il faut quand même avoir un minimum de preuves. Ça peut très bien être quelqu'un, un ancien collègue, comme je dis, qui était dans la boîte administrative, oui, puis qui a vu la transaction, puis qui a fait
qui en veut à la mairesse, lui aussi, ou peu importe. Là.
Exact. Ça peut être ça.
As-tu déjà vu des cas semblables dans ta pratique, Philippe?
Non, j'ai pas vu, moi, personnellement, mais j'ai eu des dossiers où j'ai des clients qui ont quand même déjà parlé à des journalistes et tout ça. Moi, je suis pas un gars qui j'aime pas ça, qu'on parle aux journalistes pendant les dossiers ou après les dossiers. Je pense pas que c'est comme ça qu'on doit régler les dossiers. Moi, vraiment, là, souvent, c'est une condition qu'on ne parle pas aux journalistes pendant que je vous représente, parce que vraiment, je trouve que ça fait juste nuire au climat de négociation. Et quand c'est terminé, ben c'est que ça met notre client à risque. Si vous parlez aux journalistes une fois que c'est réglé, là, et que vous dites en plus les montants qui ont été convenus, vous vous mettez à risque vous-même en tant que particulier qui a négocié une entente. Donc, moi, je ne suis pas friand de ça. Et les quelques fois que ça m'est arrivé, c'est certain que j'ai remis à l'ordre les personnes.
Le message est passé. Merci beaucoup, Philippe. La glace est brisée pour 2021. On reprend ça la semaine prochaine.
Certainement. Merci.
Salut. Bye-bye.